Bienvenue à bord.
Bonjour à toutes et à tous. Elles sont imprévisibles et impressionnantes, les vagues scélérates. On en parle avec notre invité, Michel Aulagnon, ingénieur chercheur à l'IFREMER, spécialiste du phénomène et inventeur du terme d'ailleurs, Michel.
Exactement. En 2000, j'ai organisé un atelier qui s'appelait Rogue Waves à Brest. Et pour les médias, il fallait trouver une traduction. Donc rogue, ça se traduit par voyou, mais vague voyoute, ça marchait pas. Et j'ai pris mon dictionnaire de synonymes, j'ai trouvé vague scélérate. Et quand j'ai dit vague scélérate, immédiatement, tous les médias me sont tombés dessus et ont repris l'expression. Et du coup, les gens croient que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais non, c'est moi qui ai inventé ça il y a 20 ans.
Un reportage dans ce magazine sur les sauniers de l'île de Noirmoutier qui viennent de réaliser une année record du jamais vu.
Être saunier, c'est un vrai marathon. Là, on a fait plus de 70 jours non-stop de travail tous les jours.
Nous retrouverons nos chroniqueurs avec vous, Gwendal Jaffry. Nous allons parler de cette histoire étonnante, celle des naufragés du Grafton.
Les naufragés du Grafton, en effet, qui ont très sérieusement influencé Jules Verne pour son île mystérieuse.
Et avec vous, Jean-Michel Guigné, des formalités à connaître quand on achète un bateau d'occasion.
Et oui Jérôme, parce que quand on achète un bateau d'occasion, il y a toujours de la paperasse et des papiers à faire. Et bien se rappeler évidemment quelles sont les formalités nécessaires et puis voir qu'on peut d'ailleurs aussi se faire assister par des professionnels si on a la flemme de le faire soi-même.
A tout à l'heure messieurs.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
Michel Aulagnon, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi une vague scélérate ?
Une vague scélérate, c'est une vague qui est d'une hauteur et d'une sévérité, surtout, inattendue par rapport aux autres vagues de l'état de mer qui l'environnent. Inattendu, ça veut dire totalement au-delà de ce que le marin, même expérimenté, peut prévoir.
On parle de quelle hauteur ?
La hauteur, ça dépend des autres. Ça peut atteindre 30 mètres, mais par un état de mer où les vagues ont l'air de pas dépasser 10 mètres. Mais une vague de 10 mètres, par un état de mer où les vagues ont pas l'air de dépasser 3 mètres, c'est aussi une vague scélérate. Et en plus, donc il y a la cambrure qui compte. Donc c'est pour ça que je parle de sévérité, parce qu'il y a pas que la hauteur. Si la vague elle est bien molle, bien longue, le bateau va s'élever tranquillement sur la vague. Mais si elle est bien cambrée, le bateau va subir des dommages certains. Il va être roulé si c'est un petit bateau, plié si c'est un grand, etc.
Comment se forme ce phénomène ?
Alors c'est la combinaison normalement de vagues dues au vent. Si les vagues se superposent, parce qu'elles ne voyagent pas toutes à la même vitesse. La vitesse dépend de la longueur de la vague. Les longues vont vite, les petites vont moins vite. Vous pouvez expérimenter à la plage ou à la piscine. Et donc, si vous envoyez d'abord les petites et ensuite les plus grandes, ce que fait la tempête. La tempête envoie d'abord des petites vagues, et puis plus tard, quand elle a grossi, elle envoie des grandes vagues, des longues vagues. Et les longues rattrapent les petites, et il y a un endroit où c'est comme dans une course à handicap pour les chevaux. Tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment. Il vaut mieux pas que le bateau soit aussi au même endroit. C'est quelque chose qu'on rencontre en gros une fois dans sa vie quand on passe sa vie en mer. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a quelques malchanceux qui en ont rencontré deux fois et beaucoup de chanceux qui n'en ont jamais rencontré. C'est l'échelle aussi de ce qu'on fait pour construire les navires, de ce qu'on considère comme étant la vague maximale à laquelle le navire doit pouvoir résister.
Est-ce qu'il y a plusieurs types de vagues scélérates ?
Alors oui, il y a quand même plusieurs types de vagues scélérates. Il y a la vague scélérate classique, disons, due au vent. Et puis il y a aussi d'autres causes de vagues qui peuvent se produire. Par exemple, la chute d'un pan de montagne dans un fjord qui va faire une vague énorme qui va se diriger vers la mer au lieu de se diriger vers la côte. On peut avoir aussi des chutes d'astéroïdes. On a aussi un phénomène qui se produit dans des lacs ou des mers relativement fermées. Quand il y a une tornade ou une toute petite dépression, elle pousse devant elle un bourrelet d'eau. Et ce bourrelet d'eau apparaît comme une vague énorme par rapport à ce qu'on avait vu avant. On a même ce phénomène au sein des dépressions. Il y a souvent des dépressions secondaires au sein d'une dépression, d'une tempête. Et il y a une petite tornade, une sorte de tornade, bon, à l'échelle de quand même quelques kilomètres de diamètre, hein, mais qui pousse devant une vague scélérate qui va surprendre totalement le navigateur. Et encore plus si c'est dans un lac et qu'elle s'est réfléchie sur la côte à un endroit. Donc là, le navigateur ne voit même pas la tornade, il voit la réflexion de la vague de la tornade qui revient vers lui.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden. In the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Les Beatles avec Octopus Garden, le choix musical de notre invité que nous allons retrouver dans un instant. Ce sera juste après Gwendal Geoffrey, le rédacteur en chef du Chasse-Marée, la revue de la culture et du patrimoine maritime, qui va nous parler des naufragés du Grafton.
Bienvenue à bord.
Gwendal, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes en 1863 et c'est une histoire qui a inspiré Jules Verne.
Et l'histoire est assez incroyable. Alors effectivement, en 1863, on se retrouve en Australie et il y a un Français, François-Édouard Reynal, qui se voit proposer une offre difficile à refuser. Reynal, en fait, il est chercheur d'or, ça fait 11 ans qu'il est en Australie et quelqu'un lui propose d'aller voir s'il y a de l'étain sur une île qui se trouve au sud de la Nouvelle-Zélande, l'île Campbell. Tout en lui disant: s'il y a de l'étain, vous revenez vite, on prend la concession. S'il n'y a pas d'étain, c'est pas grave, il y a énormément de phoques. Et à cette époque-là, le prix, l'achat de la peau de phoque et de l'huile de phoque, ça rapporte énormément d'argent. Reynal va trouver un bateau, le Grafton, une goélette. Il va trouver un capitaine, Musgrave, et il va trouver deux matelots et un cuisinier. Les trois hommes partent. Trois semaines plus tard, ils arrivent sur cette fameuse île Campbell et il n'y a ni étain, ni phoque, il n'y a rien. Ce dont ils ont convenu avant de partir avec celui qui a eu l'idée de cette aventure, c'est si on n'avait pas de nouvelles d'eux au bout de 4 mois, que quelqu'un viendrait les chercher. Ça, ils y pensent toujours, mais là, désormais, ils sont sur la route du retour. Et au retour, il y a une île qui s'appelle Auckland. Ils vont s'arrêter sur l'île d'Auckland pour voir si, là, on trouve, par exemple, des phoques. Malheureusement, rien non plus. En revanche, quand ils sont sur l'île d'Auckland, une nuit, coup de vent, naufrage, ils vont se retrouver à terre. Heureusement, ils arrivent à sauver de la nourriture, leurs vêtements, des outils, l'annexe du Grafton. Mais là où on devait venir les chercher au bout de 4 mois sans nouvelles, ils ne sont plus sur l'île Campbell, ils sont sur l'île d'Auckland, dont probablement personne ne viendra jamais les chercher. Ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, c'est comment ils vont organiser la vie sur cette île. Ils vont construire une maison avec un foyer, avec un bain chaud. Les plus instruits vont donner des cours aux matelots et aux cuisiniers. Ils continuent à tenir le livre de bord, ne serait-ce que pour noter le temps qui passe et pour raconter ce qui leur arrive. Et anniversaire, première année, seul sur l'île, ils ont un déclic. On ne peut pas rester, personne ne viendra jamais nous chercher. Cette idée va être de transformer l'annexe qu'ils ont conservée en bateau pour rejoindre la Nouvelle-Zélande qui se trouve à 6 jours de mer. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont créer un chantier naval sur l'île avec des pots de phoque, donc il y en a quand même quelques-uns. Ils vont construire un soufflet qui va leur permettre de forger les outils du charpentier. Ils vont construire ce canot et grâce à ce canot, ils vont rejoindre à 3 la Nouvelle-Zélande, épuisés au bout de 6 jours. En plus, ils vont partir en plein hiver et ensuite un bateau ira chercher les 2 autres. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est déjà la durée, c'est la mise en place qu'ils ont eue pour survivre sur cette île pendant 1 an et demi. C'est également de découvrir, quand on va les chercher, qu'il y a eu un autre naufrage au nord de cette même île et qu'en même temps qu'eux, d'autres naufragés ont vécu pendant 1 an là-bas. Et tout ça, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Quelques années après leur retour, 3 ans plus tard exactement, à Paris, les éditions Hetzel vont publier « L'île mystérieuse » de Jules Verne, qui étrangement, mais sans jamais le citer, raconte de manière très proche cette histoire des naufragés du Grafton.
Merci, Gwendal Jaffry.
Bienvenue à bord, le magazine de la mer.
Suite de notre entretien avec notre invité, Michel Aulagnon, spécialiste des vagues scélérates, on va, Michel, citer quelques exemples, quelques anecdotes de vagues scélérates. On va commencer par la Mignonette.
Oui, la Mignonette, malgré son nom français, c'est un yacht anglais qui, en traversant l'Atlantique Sud, s'est trouvé à fuir une tempête qui paraissait pas très méchante. Le capitaine a envoyé le mousse préparer le thé dans l'habitacle et à ce moment-là, il surgit de nulle part une vague énorme qui est retombée dans le yacht et qui l'a coulé. Et ils ont tout juste eu le temps de sauter dans le canot de sauvetage, mais il n'y avait pas de vivres. Et au bout de quelques jours, le mousse délirait et ils ont tué le mousse pour le manger. Donc il y a eu un procès fameux, c'était au milieu du 19e siècle, il y a eu un procès fameux et ils ont été condamnés à 50 ans de prison pour avoir tué le mousse et l'avoir mangé et la peine a été commuée en 6 mois avec sursis parce que finalement, nécessité fait loi.
Autre anecdote, celle d'Ernest Shackleton.
Donc Ernest Shackleton, Sir Ernest Shackleton, et c'est un des plus grands explorateurs polaires de tous les temps. Il s'est trouvé coincé, pris son navire, l'Endurance, pris par les glaces au moment où il allait faire la traversée de l'Antarctique. Et donc ils sont restés 22 mois, donc coincé par les glaces. Donc le premier hiver, c'était normal. L'été suivant, ils n'ont pas réussi à se dégager. Et quand ils ont vu le printemps de nouveau, ils ont dit « il faut qu'on aille chercher des secours ». Ils ont traversé donc depuis l'Antarctique jusqu'à la Géorgie du Sud et avec le canot de l'expédition. Et là, ils ont pris, au milieu de la nuit, il y a eu un moment, Shackleton a dit à ses compagnons « Ah, le ciel s'éclaircit !» Et c'était pas le ciel qui s'éclaircissait, c'était l'écume d'une énorme vague qui était blanche et qui retombait sur le navire. Ils ont écopé comme des fous et ils ont réussi à atteindre la Géorgie du Sud. Et la première nuit sur la plage, si on peut dire, de Géorgie du Sud, Shackleton a passé la nuit à faire des cauchemars parce qu'il voyait les falaises noires avec la crête de glace en haut et il pensait que c'était la vague qui revenait, encore une fois.
Michel Olagnon, auteur de ce livre « Anatomie curieuse des vagues scélérates », c'est aux éditions Quae, qui va participer au festival Les Aventuriers de la Mer, qui va se dérouler à la Cité de la Voile à Lorient, dans le Morbihan. Ça sera du 10 au 13 octobre, programme très riche à retrouver sur leur site. Merci Michel Olagnon.
Merci.
Bienvenue à bord, Jérôme Le Breton.
C'est une année record pour les sauniers à Noirmoutier en Vendée. Avec le soleil et la sécheresse de cet été, eh bien, ça a favorisé l'évaporation dans les marais salants et les sauniers ont récolté 4200 tonnes de sel, presque le double d'une année normale, du jamais vu. Le reportage sur place de Marc Bertrand.
Hervé Zarca regarde les premières gouttes de pluie tomber sur ces marais salants. Le président de la coopérative l'avoue.
La pluie n'est pas arrivée trop tôt. Non, non, elle est bien arrivée parce qu'on est fatigué. Être saunier, c'est un vrai marathon. Là, on a fait plus de 70 jours non-stop de travail tous les jours.
Le résultat, il est derrière lui. Un tas de sel de 15 mètres de haut, 60 mètres de long.
Là, il y a une barge de 3300 tonnes de cette année, plus ce petit tas-là qui fait à peu près 1000 tonnes.
C'est simple, il n'avait même pas prévu assez de bâches pour tout protéger de la pluie. Et la raison de cette année record ?
La météo, exceptionnelle. Sécheresse et puis beau temps et chaleur. Donc, forte évaporation égale beaucoup de sel.
Chacun des 97 producteurs de la coopérative a battu son record personnel comme Dominique Bonin.
J'ai quasiment fait x2 par rapport à l'année dernière.
Et il le dit, lui aussi est content que ça se termine.
C'est assez physique quand même, au niveau de tirer le sel avec la grande ételle et le matin quand ça permet brouetter. C'est remonter le sel qu'on a récolté en bas pour le mettre en haut sur le tas. Alors là, brouetter quand il fait chaud, c'est... compliqué.
La récolte de cette année aura permis de reconstituer les stocks pour faire face au risque d'une future mauvaise année. Et maintenant que la pluie est là, les sauniers ont rouvert les bouchons et noyé les marais jusqu'à l'été prochain.
Jean-Michel Guénier va maintenant nous parler des formalités à connaître quand on achète un bateau d'occasion.
Bienvenue à bord.
Jean-Michel, bonjour.
Bonjour Jérôme.
On parle notamment pour ceux qui veulent prochainement changer de bateau.
Et oui, avec les salons nautiques d'automne, le Mille Sabords du Cruesti dans quelques semaines, cette période est une saison propice au changement de bateau. Alors, si vous jetez votre dévolu sur un bateau d'occasion, n'oubliez pas d'effectuer les formalités de changement de propriétaire auprès de l'administration. En leur absence, la vente ne sera pas enregistrée et en cas de contrôle, ça pourrait vous coûter cher. Et vous disposez d'ailleurs normalement d'un mois après la conclusion de la transaction pour le faire. Alors concrètement, commencez par établir un acte de vente avec l'ancien propriétaire, lequel sera signé également par l'acheteur. On conseille de l'établir en 3 exemplaires, l'un pouvant être conservé par le vendeur et les 2 autres laissés à la disposition de l'acheteur pour évidemment établir les formalités. On trouve facilement des modèles d'actes de vente sur Internet. Ensuite, selon que le bateau que vous avez acquis est un petit bateau, généralement de moins de 7 mètres, c'est-à-dire doté soit d'une simple carte de circulation, soit d'un acte de francisation, la démarche diffère. Alors, on va dire, pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 mètres et la puissance inférieure à 22 chevaux, il faut fournir la carte de circulation du bateau qui a été remise par l'ancien propriétaire, l'acte de vente, daté, signé, une fiche plaisance complétée par l'acquéreur, un justificatif de domicile et une photocopie de pièce d'identité. Si c'est un bateau qui est plus grand que 7 mètres, dont la puissance est supérieure à 22 chevaux, cette fois, il faut fournir l'acte de francisation qui a été remis par l'ancien propriétaire, plus les mêmes documents et justificatifs que pour un bateau de moins de 7 mètres. La principale différence dans ce cas, c'est qu'en fait, on doit s'adresser en premier lieu au bureau des douanes du port d'attache, alors que dans le premier cas, on s'adresse seulement au bureau de la délégation à la mer et au littoral, ce qu'on appelait avant les affaires maritimes. Et je dirais la seconde différence, elle touche au portefeuille, car qui dit bateau francisé dit aussi paiement du droit annuel de francisation et de navigation. Alors, là encore, je vous conseillerais de vous rendre sur le site internet servicepublic.fr, service-public.fr, qui explique toutes les procédures en détail. Mais inutile de dire que ces démarches sont souvent plus faciles à énoncer qu'à effectuer, car l'administration maritime semble avoir été particulièrement affectée par les réductions d'effectifs dans la fonction publique, ce qui fait que la fluidité à laquelle on pourrait s'attendre n'est pas toujours au rendez-vous. Alors j'ai une alternative, ça consiste à confier tout ce processus d'immatriculation et de francisation à un intermédiaire sur Internet comme bateau-immatriculation.com qui se chargera en votre nom, de toutes les formalités, sans avoir à vous déplacer.
Pour terminer ce magazine, Jean-Michel, vous nous présentez VDH Jean-Luc Van Den Ned.
Et oui, Jean-Luc Vandenède, plus connu encore sous le pseudonyme de VDH, Jean-Luc Vandenède est né en 1945. Professeur de mathématiques, il décide un jour de se consacrer uniquement à sa passion, la course au large. Il enchaîne tout d'abord les mini transats, puis participe deux fois au Vendée Globe, deux fois au Box Challenge, et il détient d'ailleurs le record du nombre de passages du Cap Horn en course, 11 fois. L'année dernière, à 70 ans, il remporte la Golden Globe Race, un tour du monde en solitaire et à l'ancienne.
Merci, Jean-Michel Gagné. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue à bord. À très bientôt. Au revoir.